discours de philosophie critique par le père Philippe Assajada le 2 mars 1988.
Pour essayer de comprendre les diverses modalités de la vérité. La dernière fois, nous avons vu comment un principe propre, la nature, l'ousia, la substance, sont vrais. Et quand vous dites ça à un positiviste ou à un psychologue positiviste, freudien, c'est pas commode. Parce qu'ils disent, vous avez découvert ce principe, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il est vrai? C'est vrai que je ne peux pas montrer du doigt le principe. Alors, la phrase d'Aristote reste toujours vraie, celui qu'il connaît, le connaît, celui qu'il ne connaît pas, il ne le connaît pas. Comment voulez-vous à quelqu'un qui n'a pas saisi le principe de la nature lui faire comprendre que la nature, que ce principe est vrai? Celui qui n'a pas saisi l'ousia, comment voulez-vous lui faire comprendre que l'ousia est un principe vrai? Le principe ne se justifie pas par autre chose que le principe. Donc, la vérité du principe, elle est à l'intérieur même du principe. Mais cependant, comme ce principe est découvert par induction, il est découvert à partir d'une expérience. Et dans l'expérience, il y a le jugement d'existence, il y a la réalité. C'est donc la réalité qui, en définitive, mesure le principe. Mais médiatement, pas immédiatement. Et la mesure du principe, d'un principe propre, est à l'intérieur même de ce principe. La mesure de l'ousia, c'est l'ousia. Parce que si vous mettez une mesure extrinsèque à l'ousia, vous relativisez l'ousia. Et alors à ce moment, c'est plus un principe. Donc qui dit principe, dit quelque chose d'évident. Qui dit évident, dit qu'il possède par lui-même sa propre mesure. Sauf l'évidence du jugement d'existence. C'est pour ça que tout le réalisme philosophique repose sur le jugement d'existence. Et le réalisme d'un principe repose sur le jugement d'existence. Si le jugement d'existence n'est pas saisi à partir d'une expérience, si le principe propre de l'ousia et de la nature n'est pas saisi à partir d'une expérience, ce principe sera un a priori. Si au contraire il est saisi à partir d'une expérience, je peux dire que ce principe n'est pas un a priori, il est découvert à partir d'expérience. Alors ça revient toujours à la même chose. Quelle différence y a-t-il entre un a priori et l'expérience? Parce que certains diront, mais votre expérience est un a priori. Alors voyez la confusion. L'expérience est un point de départ. L'a priori est un point de départ. Tous les deux sont des points de départ. Mais le point de départ de l'a priori, c'est quelque chose que je possède au-dedans de moi-même. Le point de départ de l'expérience est quelque chose que je peux montrer du doigt à celui qui, à côté de moi, a bonne volonté pour découvrir la vérité. Je dis, cette table existe. C'est pas un a priori que dire cette table existe. Parce que vous pouvez la toucher comme moi. Si vous ne pouviez pas la toucher, si j'étais enveloppé d'un verre, en dessous d'un, et que je ne pouvais pas la toucher, pour vous, ce serait un a priori. Quand je dis cette table existe. Mais si vous pouvez refaire la même expérience que moi, ce n'est plus un a priori. C'est pour ça que l'expérience mystique pour un philosophe est un a priori. Parce que je ne peux pas le dire, faites-la. Vous voyez toute la différence qu'il y a entre le point de départ, l'a priori et l'expérience. Ça, c'est très important, au point de vue critique. Et la vérité, c'est l'adéquation à quelque chose que je considère, l'adéquation de ce que je dis par rapport à quelque chose que je considère comme la mesure même de ce que je dis. La mesure même d'un principe propre, c'est le principe propre. C'est le contenu de ce principe. Donc c'est c'est la signification propre de l'ousia qui justifie l'ousia comme principe. Alors, continuons. Quelle est la vérité d'un jugement de sagesse? Puisque nous avons dit, il y a les jugements propres, ce n'est pas la peine de les multiplier. Cherchez tout simplement, c'est intéressant à titre critique, de chercher tous les principes propres, il n'y en a pas tellement. Établissez le nombre de principes propres qui existent dans votre philosophie. Deux en métaphysique, en philosophie du vivant. En philosophie de la nature, un qui se dédouble en deux. Quand j'ai dit un, ça se dédouble toujours. En éthique, un. En philosophie de l'art, un. En philosophie politique, le bien commun. En logique, puisque la logique est un organone, un instrument, qui est le principe propre de la logique. Y a-t-il un principe en logique? C'est un art. Donc c'est comme la philosophie de l'art, il y a quelque chose qui commande tout. Eh bien la logique, c'est l'universel. La logique baigne dans l'huile de l'universel. C'est l'universel. Si vous baignez dans l'universel, vous baignez en logique. Et vous ne faites pas la distinction entre l'être de raison et l'être réel. Et en face d'un marxiste, c'est la seule chose qu'on peut essayer de lui faire comprendre. Y a-t-il une distinction pour vous entre l'être de raison et l'être réel? C'est pas commun. Et c'est là où on doit les faire comprendre, parce que c'est là où la dialectique tombe. Bon, alors, jugement de sagesse. En toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Ça, c'est un jugement de sagesse. En toute créature, en tout être participé, en toute créature, il y a une distinction essentielle, une distinction réelle, entre sa substance et ses pouvoirs d'opération. En toute créature, il y a une distinction entre l'être et la vie. Et ainsi de suite. Il y a des quantités de jugements de jugements de sagesse. Ce n'est pas un principe, c'est un jugement de sagesse, c'est une conclusion. Quelle est la vérité d'une conclusion? La vérité d'une conclusion, c'est d'être conforme à ses principes. Puisqu'elle est conclusion, elle dépend des principes. Et donc, quelle est la vérité d'un jugement de sagesse? C'est d'être une conclusion ultime et dernière. Donc, qui dépend d'un principe ultime? Le Créateur. La sagesse du Créateur. D'un second principe, puisque dans toute conclusion, il y a toujours deux principes. Un principe propre dont on se sert au plan philosophique. Alors quand je prends en toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Vous voyez, ce qui a été considéré comme une des grandes thèses thomistes. En réalité, c'est un jugement d'existence, c'est un jugement de sagesse. C'est une conclusion. Thésis, une thèse. Une thèse, c'est toujours une conclusion, ce n'est pas un principe. Il faut prouver une thèse. Et voyez bien comment on l'exprime. On dit en toute créature, on ne dit pas en tout être. En toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et essence. Ce n'est pas en tout être, puisqu'en Dieu, justement, il n'y a pas de distinction entre essence et essence. En Dieu, l'être suprême. Donc ce n'est pas en tout être, en toute créature. Ça repose donc sur la création. La créature est un être second, puisque c'est un être qui dépend de l'acte créateur de Dieu. C'est un être second, il y a donc en lui une dualité. Il n'y a que l'être premier qui est simple. Tout être second est double. Il faut donc découvrir la première distinction. Et la première distinction, elle se prend à partir de l'acte de la puissance. Donc je me sers du principe acte et puissance. Et je dis, cette distinction fondamentale dans la création, c'est donc entre acte et puissance. Quel est l'acte fondamental et substantiel? C'est l'existence. Quelle est la puissance fondamentale et première? C'est l'essence. Donc, en toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Vous voyez donc que cette conclusion dépend de deux principes. Le point de vue de la création dépend de deux affirmations. La création et la distinction réelle entre l'être en acte et l'être en puissance. Vous pouvez faire ça pour tout jugement de sagesse. Et tout jugement de sagesse est vrai dans la mesure où il est conforme à ces principes. Donc vous avez là encore un nouveau type de vérité. La vérité d'une conclusion dépend de sa conformité au principe dont elle dépend. Autre jugement, c'est le jugement affectif. Pierre est mon ami. Pierre est mon ami et je vous dis que c'est vrai. Si vous dites Pierre est mon ami et je vous dis que c'est vrai. Pierre est mon ami, c'est un jugement affectif. Vous n'avez qu'à décliner Pierre. Et vous avez un jugement affectif. Parce que si vous prenez Pierre universel, c'est pas mon ami. L'universel ne peut pas être mon ami. Pierre, c'est un être concret, individuel. C'est Pierre. Pierre est mon ami. Jugement affectif. Ce jugement affectif est vrai dans la mesure même où il correspond à la mesure de mon amitié. Puisque tout jugement est vrai dans la mesure où il est conforme à sa mesure. Quand j'ai dit « Pierre est mon ami », comment voir la vérité de ce jugement? Parce que vous pouvez dire « Mais c'est purement subjectif. » C'est vrai, c'est purement subjectif, comme toute affectivité. C'est moi seul qui peux dire si Pierre est mon ami. Après tout, Pierre est mon ami, pourquoi est-il mon ami? Parce que je l'ai choisi. Si je n'avais pas choisi, il ne serait pas mon ami. Parce que j'ai choisi librement. Si Pierre s'est imposé à moi, alors il n'est pas mon ami. Il s'est imposé à moi, comme nécessaire. Donc ce n'est pas mon ami. Ce jugement affectif est vrai dans la mesure où il est conforme à la source même, à la mesure même de l'amour d'amitié. Qui est le choix. Le choix libre de l'ami, comme ami. Vous voyez donc que dans le point de vue du jugement affectif, la vérité consiste à être en conformité avec ce qu'est l'amour. Et cet amour, dans ce qu'il a de radical et de profond, c'est le choix libre. Le choix libre mesure mon amour d'amitié. Et donc le choix libre mesure la vérité de cette affirmation « Pierre est mon ami ». Vous voyez, c'est très curieux, parce que quand vous voulez montrer que Pierre n'est pas mon ami, dans tous les procès d'annulation de mariage, vous voulez montrer que Simone n'est pas mon épouse. et qu'Arthur n'est pas mon mari. Alors vous prenez Simone et Arthur, et vous montrez que leur amour d'amitié n'est pas vrai, parce qu'il a été, forcé. Et donc vous revenez au choix libre. Et toute votre discussion, c'est sur le choix libre. Y a-t-il eu, à ce moment-là, des pressions? Et vous cherchez à montrer qu'il y a des pressions. Et ces pressions, vous les montrez en fonction du contexte. Je n'étais pas libre parce que j'aimais quelqu'un d'autre. Et donc mon choix n'était pas libre. Oui, mais cette personne que vous aimiez, est-ce que vous l'aimiez librement? Ah oui, ben, si vous l'aimiez librement, votre choix restait libre. Quoi c'est? Tous les procès d'annulation, ça arrive de temps en temps, qu'on est appelé pour témoigner pour un procès d'annulation. C'est toujours très intéressant de voir comment ça se passe. Et voir la philosophie qui est derrière, si elle est bonne ou mauvaise. La théologie qui est derrière, si elle est bonne ou mauvaise. L'influence du freudisme sur les canonistes, qui ordinairement ne sont pas très philosophes. Dernière fois qu'on m'avait demandé, un cas particulier, je ne le nomme pas, je ne dis pas qui, parce que c'est, on est tenu au secret le plus absolu, mais on est tenu au secret par rapport aux personnes, toujours. On n'a jamais le droit de dévoiler une personne. Dès qu'on dévoile une personne, on est dans l'erreur. Et toute justification qui se fait en nommant les personnes montre qu'on est passionné, et donc, ça vaut rien. Un bon canoniste dit tout de suite ça. C'est très important comme principe. On ne dévoile jamais une personne. Évidemment, quand on est en procès, celui qui fait le juge dit il s'agit de telle ou telle personne, c'est évident, mais vous n'avez pas le droit d'en parler. Sous un point de vue du secret le plus absolu. Faute grave. Dévoiler une personne, c'est une faute grave. Parce que vous allez contre la chose la plus profonde qui soit, un secret naturel. Vous n'avez le droit de dévoiler une personne que si la personne est consentante. Autrement, on n'a pas le droit. Et je crois que la faute la plus grave, c'est de dévoiler un secret naturel. Pour moi, c'est la faute la plus grave. Parce que ça va contre l'amour. Et ça monte l'orgueil. Et c'est très important dans notre monde d'aujourd'hui, parce que on croit qu'on peut tout dévoiler. On n'a pas le droit. Et dès que quelqu'un dévoile un secret, on devrait, si on était vrai, dire « Maintenant taisez-vous, je n'écoute plus rien. » C'est très important de rectifier. Dans notre monde d'aujourd'hui, on doit être les garants du secret. Et les témoins du secret. Autrement, vous supprimez l'amour. Alors, vous savez bien que la grande astuce du démon, c'est de supprimer l'amour. Un secret naturel est au cœur de la confiance. Quelqu'un qui dévoile un secret naturel, on ne peut plus avoir aucune confiance en lui. Oui. C'est comme votre relation avec quelqu'un. Quand vous connaissez une personne et qu'elle vous parle intimement, ben c'est un secret. Alors vous pouvez toujours demander, est-ce que je peux en parler à mon directeur de conscience? En confession, sous le sceau du secret. Alors si elle vous dit non, elle dit, alors moi je ne peux plus vous écouter. Parce que j'ai ma conscience, j'ai besoin d'en parler à mon directeur spirituel. Un secret qui vous interdit d'en parler à votre père spirituel ou à votre confesseur, vous pouvez dire d'avance, « Ah, je ne veux pas en parler alors. Je ne veux pas vous écouter. » Parce que vous m'entraînez dans une situation qui fait que je serai noué. Et je ne pourrai plus en parler. On doit toujours pouvoir parler d'un secret. Parce que, au-delà du secret naturel, il y a le secret divin. quelqu'un qui ne croit pas et qui vous donne un secret, vous pouvez toujours dire, moi je suis croyant, est-ce que vous me permettez d'en parler parce que c'est trop grave ce que vous me dites. Ainsi dit, c'est sous le sceau du secret, c'est une autre personne auquel j'ai totale confiance, et je le dirai comme un secret, donc je ne dévoile pas un secret puisque je le révèle comme un secret. Je parle dévoiler un secret publiquement à quelqu'un qui n'a aucune espèce d'autorité pour que vous leur parliez. Et dévoiler un secret, pour moi, c'est la faute la plus grave. Au point de vue naturel, éthique naturelle. Parce que c'est briser l'amour. Et tuer l'amour, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est tuer un esprit. C'est tuer une personne. C'est ce qu'il y a de plus grave. Et le jour où quelqu'un ne comprend plus ça, ça prouve qu'il n'est plus spirituel. Qui devient un animal social, auquel vous pouvez absolument le faire dire n'importe quoi. Et on voit très bien que dans les pays qui sont matérialistes, vous voulez qu'on révèle des secrets. Les journalistes sont terribles, de ce point de vue-là. Ils veulent qu'on révèle des secrets. On va dire non, moi je ne veux pas. Je ne livrerai jamais un secret. Je peux vous raconter de la philosophie, ça c'est très bien. Et vous ferez la théorie du secret. Faites ça un journaliste. Alors il blémira. Parce que c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le secret c'est sacré. Dieu sonde les reins et les cœurs. Et ça, c'est de l'éthique religieuse. On va le voir en éthique religieuse, ça. C'est très, très important. Déjà en éthique naturelle, c'est l'amitié. Ou on croit à l'amour d'amitié, on n'y croit pas. Bon, si on n'a jamais fait l'expérience de l'amour d'amitié, on dira, oh, ça n'existe pas. Si on sait ce que c'est que l'amour d'amitié, alors on sait qu'au cœur de l'amour d'amitié, il y a un secret. C'est deux personnes qui sont nouées dans un secret. Et un secret, ça ne se dit pas. Sauf à son père spirituel. C'est peut-être là, vous voyez, où on touche ce que c'est que la paternité spirituelle. La paternité spirituelle consiste à être dans cette limpidité absolue qu'on n'a pas de secret pour son père spirituel. Mais c'est la père spirituelle, c'est-à-dire qui remplace pour nous le Christ. Et la paternité spirituelle fait qu'il n'y a pas de secret. Pour son père spirituel. Il est discret pour les autres, mais pas pour son père spirituel. C'est très important de comprendre ça. Vous savez, aujourd'hui, on devrait faire la philosophie du secret. Parce que c'est capital pour moi. C'est ça qui enlève toute confiance, qui enlève toute possibilité de coopérer. C'est qu'il n'y a plus de confiance. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui n'a plus de confiance, vous savez que tout ce que vous dites va être répété. Et ce qui est pire, c'est que quelqu'un acquiert votre confiance, il vous prend vos secrets, il les livre après. Vous savez, Dalia, c'est ça, avec Samson. Elle fait sa petite chanson. Puis elle prend ses secrets. Ça, il y a une chose très très importante. Là, on touche le fondement de l'éthique naturelle, qui montre bien que la grande expérience de l'éthique naturelle, c'est l'amitié. Une relation. Ah, quel est le secret des amis? C'est qu'ils sont amis. C'est un secret substantiel, ils sont amis. Et tout ce qui touche l'ami, et que j'ai su en tant qu'ami, je n'ai pas le droit de le dire. Alors, il peut y avoir, vous voyez, en tant qu'ami, on peut quelquefois dire des choses qui ne sont pas justes. C'est vrai. Il peut y avoir une culpabilité entre amis. Cette culpabilité entre amis, alors, c'est un secret qu'on ne peut livrer qu'à Dieu. On n'a pas le droit de médire et de calomnier. Ce que vous avez appris en tant qu'ami, vous n'avez pas le droit de le livrer. C'est la traîtrise. Livrer un secret, c'est un traître. Et être traître, moi je crois, c'est l'avilissement complet de la personne humaine. Ça va très loin ces choses-là, au point de vue profond. Parce que nous sommes dans un monde où les personnes ne savent plus ce que c'est garder un secret. Alors elles ne sont pas coupables parce qu'elles ne savent plus. Mais elles détruisent. Elles font l'œuvre du démon. Le démon, c'est l'arracheur des secrets, puisqu'il n'y a que Dieu qui sont des reins et des cœurs. Et le démon veut prendre la place de Dieu. Et donc il veut arracher les secrets. Et arracher les secrets, et dès que vous êtes porteur d'un secret qu'on vous a livré, vous n'avez pas le droit de communiquer. Et quelqu'un qui communique les secrets qu'il a reçus d'un autre, il est lui-même traître. C'est effrayant. Et on doit se rectifier dans cet ordre-là, hein. Dans la charité fraternelle. On doit dire, tu n'as pas le droit de dire ça. Au nom de quoi tu dis ça? Tu n'as pas le droit de dire ça. Puisque tu le sais d'un traître. Alors est-ce que tu coopères avec le traître? Si tu coopères avec le traître, tu es toi-même traître. Oui. C'est évident. Il y a des secrets de famille. Il y a des secrets communautaires. Et les secrets communautaires sont des secrets qu'on a le droit de livrer qu'à Dieu. C'est très important, ça. On est pour comprendre. Autrement, il n'y a plus d'unité. Il n'y a plus d'unité, il n'y a plus d'amour. Alors vous vivez à côté d'un côté de quelqu'un, mais il va peut-être me trahir celui-là. Je ne peux pas avoir confiance en lui. Et dans le marxisme, il faut que le fils ou la fille dénonce son père et sa mère. Quelle confiance peut-il y avoir si je sais que mon fils ou ma fille va me trahir? Je lui dirai des choses communes. Quand vous écrivez à quelqu'un et que vous savez que cette personne va prendre, va immédiatement prendre la copie de cette lettre pour pouvoir la divulguer, qu'est-ce que vous faites? Vous n'écrivez plus que des lieux communs. Quand vous le savez. Quand vous ne le savez pas, mais vous êtes trahi. Une lettre est une chose personnelle. On n'a pas le droit de la communiquer sans la permission de l'autre. Vous savez, on glisse très vite dans ces choses-là. Et c'est terrible, une fois qu'on a glissé comme ça, il ne peut plus y avoir d'amitié. On tue l'amitié. On tue l'amour d'amitié. Oui. Mais c'est évident. Tout chrétien a un secret avec Dieu. Les premiers chrétiens savaient la loi de l'arcane. La loi d'arcane, c'était la loi du secret. Et il faudrait faire la philosophie du secret aujourd'hui. Je crois que c'est très très important. Ça dépend, oui. Vous avez un comportement public. Mais, comportement public, je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, publiquement, vous dites à tout le monde, le Père Maître est un imbécile. Vous l'avez dit en récréation. Vous l'avez dit devant tout le monde, le Père Maître est un imbécile. Bon, vous êtes témoin de ça. C'est plus un script, ce que c'est dit à tout le monde. Le secret, c'est deux personnes. C'est l'intimité de deux personnes. Dès que vous êtes quatre ou trois, vous êtes la communauté. C'est pour ça que c'est trois. C'est très curieux ces choses-là. C'est pas pour rien qu'Aristote dit que la communauté, c'est trois. C'est pas deux.
Donc un secret de communauté n'est pas lié à une personne.
Non. C'est du fort externe. C'est fort externe. Ce que vous dites en récréation, c'est pas du fort interne. C'est du fort externe. Par définition, c'est du fort externe. À ce moment-là, Vous avez le devoir d'en avertir celui qui en était victime. Vous savez, on vous a traité comme un imbécile en récréation. Et moi, je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas pu le dire, vous auriez dû, à ce moment-là, dire « Eh, qu'est-ce qu'espèce de canaille, qu'est-ce que tu dis là ?» Ce que tu dis là est complètement idiot. Est-ce que tu es ivre ou pas? Parce que c'est un accident de voiture de faire ça, vous voyez? Alors, à ce moment-là, ou vous répondez, ou vous avertissez. Parce qu'autrement, vous êtes complice. Vous n'avez pas le droit d'être complice. On n'a pas le droit d'être complice d'une parole qui n'est pas vraie, quoi. Elle veut dire, ah ouais, mais alors, à ce moment-là, on peut plus. Mais attention, en récréation, c'est le bien commun. Tout ce que vous dites en récréation, c'est le bien commun. Quel est le responsable du bien commun? Au noviciat, c'est le père maître. Il est responsable du bien commun. Et au-dessus du père maître, le supérieur. Général. Pas directement le prieur. Le prieur est responsable de la communauté, du bien commun de la communauté. Et le bien commun du noviciat, ça dépend directement du supérieur. Et alors là, quelqu'un qui dit ça en régression, c'est le bien commun, c'est plus un bien personnel, c'est autre chose. Il faut arriver à distinguer, n'est-ce pas, ce que représente le secret, qui est une relation personnelle, et le bien commun. Le bien commun n'est pas un secret. Par définition, puisqu'il est commun. Et le secret est toujours personnel. Toujours un lien personnel, le secret. Quand je fais un cours, c'est pas un secret. C'est le bien commun. Mais je peux, après le cours, rencontrer quelqu'un, « Ouais, je te dis ça à toi, mais garde-le comme un secret. » Alors ça peut être, vous voyez, je ferai un cours et je dirais, ouf, ils sont incapables de connaître la vérité, alors je blague. Je te dis ça comme un secret. Alors, quel serait votre devoir? De dévoiler ce professeur qui dit, bon, je ne cherche plus la vérité, je blague. Ils sont incapables de trouver la vérité. Alors je blague. Et vous avez reçu ça comme confidence. Qu'est-ce que vous devriez dire? Si celui qui vous a dit ça est vraiment un ami, et qui vous a dit ça à titre amical, vous devriez lui dire, je peux pas garder ce secret seul, c'est trop grave. Vous n'avez plus le droit d'enseigner, si vous ne cherchez pas la vérité. Celui qui ne cherche pas la vérité n'a pas le droit d'enseigner. Oui.
Est-ce que ce niveau-là pour remettre l'autre dans la vérité?
Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, exactement. Et on doit toujours le dire à celui qui l'a dit. Vous n'avez pas le droit vous-même de faire ce discernement sans l'autre. Oui. C'est tous les secrets qu'on peut atteindre pendant temps de guerre, par exemple, pour les choses, c'est tous les problèmes de ça. Tous les problèmes de la torture, savoir pour arracher des secrets. Est-ce que vous avez le droit de torturer pour arracher des secrets? C'est tous les problèmes qui... C'est extrêmement important, ces choses-là. C'est difficile. C'est complexe. C'est pas simple du tout. Mais c'est toujours la question du secret. Alors, quelqu'un qui vous dit ça, vous devez lui dire, c'est trop grave. Moi, je dois avertir le supérieur. Parce qu'en réalité, c'est pas un secret, qu'on est un faux secret. C'est une bonne blague. Un secret regarde la vérité. Mais vous ne pouvez pas par vous-même faire le discernement. Si l'autre dit « Ah non, non, je t'en supplie, j'ai dit ça en blaguant, n'en parle pas. » Vous voyez? Et vous n'avez pas le droit d'en parler. Autrement, vous brisez la confiance. Et briser la confiance, c'est terrible. Parce que c'est briser l'amour. Le démon est un briseur de secrets. Et briseur d'amour et de confiance. il met la zizanie. C'est le démon qui fait la zizanie, c'est pas le Saint-Esprit. Et donc, dès que vous voyez la petite pointe du démon, vous êtes sûr, c'est lui. Alors, vous ne pouvez pas coopérer. Oui.
L'ordre qu'on a pris l'autre fois sur l'humilité, on voit qu'on peut passer Dieu avant nous, l'ami avant nous, le bien commun avant nous et l'œuvre avant nous.
Oui, oui.
Est-ce qu'on est tenu à un secret envers une autre œuvre, c'est-à-dire l'œuvre que nous faisons? Est-ce qu'il y a un secret?
Non, puisque ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne, l'œuvre.
Par exemple, est-ce que je peux cacher ce que je veux faire comme œuvre à mon supérieur et le dire à mon père spirituel?
Ça dépend. Si votre œuvre, vous ne la faites pas pendant que vous êtes soumis à ce supérieur, et vous la ferez après. Vous voyez, vous êtes au noviciat, vous êtes pendant les périodes de formation, vous avez un supérieur. Vous n'êtes pas obligé de lui livrer certains secrets que vous portez en vous et que vous donnez à votre père spirituel. Oh, j'ai eu une intuition formidable. Oh putain, je ferai un poème. Là-dessus, c'était extraordinaire. Bon, vous le gardez pour vous, ça. Si vous l'écrivez tout de suite et vous prenez du temps pour l'écrire, alors là, c'est autre chose. Avertissez votre supérieur que vous voulez écrire ce poème. Parce que ça, votre temps, il ne vous appartient pas. Tandis que vos secrets et vos intuitions, ça vous appartient. Si vous ne les réalisez pas tout de suite. Si vous comptez les réaliser dans 10 ans. Vous voyez la différence, j'espère. Fort externe, fort interne. Et votre père spirituel, venez, alors, le père maître joue le rôle à la fois du fort interne et du fort externe. Toujours, comme père maître. Dire le père maître n'est que du fort externe. C'est pas juste, parce que le père maître n'est pas un prieur. Et le prieur, c'est pas que le fort interne, c'est pas que le fort externe, ça touche aussi les intentions profondes dans la vie des choses. Le prieur n'est pas l'adjudant. Un adjudant, fort externe. Le prieur, vous lui demandez une permission, et le prieur a le droit de dire « Pourquoi vous me demandez cette permission ?» Là, vous dévoilez le fort interne. Et le prieur a le droit. Et si vous dites, ah non, vous êtes prieur, j'ai pas le droit de vous dire, ah, attention. Alors le prieur a le droit de dire, mais écoutez, vous ne me dites pas vos intentions, moi je peux pas vous accorder ça. Et c'est pour ça que l'obéissance, la distinction fort interne et fort externe est une distinction de droit canon. C'est pas une distinction. Cherchez-la dans la Sainte Théologie de Saint Thomas. Vous ne la trouverez pas. C'est une distinction de droit canon. Elle est très importante au point du droit canon, mais elle est dépassée dans la vie. Le père maître éduque. Le prieur éduque. Et dans la mesure où il éduque, il touche le fort interne. Parce que vous n'éduquez jamais uniquement par le fort externe. Alors si vous refusez l'éducation du père maître, vous n'êtes plus novice. Si vous refusez l'éducation du prieur, vous n'êtes plus docile. L'éducation porte sur le fort interne. Et le prieur éduque, et le père maître éduque. Oui.
Le secret est l'analogue du concept.
Tout à fait, tout à fait. C'est l'analogue entre les deux. C'est du côté connaissance affective. Et ça vous lie à la personne. Et vous voyez, c'est pour ça que quelle est la vérité d'un secret? S'il est conforme au choix amical que vous avez. Alors vous pouvez très bien, en face d'un ami, dire « J'ai cru que nous étions dans la vérité, que ce que je te disais là, à ce moment-là, était vrai. Maintenant, je crois que c'est erroné. Je n'ai pas le droit, moi-même, de faire le discernement sans avertir celui qui est intéressé. Autrement, je brise et je tue. » Oui. Ah, il est là dans le fond, je cherchais là toujours. C'est pour ça que je ne voyais plus, moi, avec mes myopies, je ne vois plus dans le fond. Vous voyez, Alors il faut que la voix dénonce la figura. Alors, dites. J'entends mal d'ici, hein, parce que je commence à vieillir. Redites-le fort. Ah oh, il y a une place pour mourir. Là, je dirais que je n'entends pas encore très bien, et il sera là. Alors dites.
Dans les conférences spirituelles que vous vous donnez,
oui.
Dans la mesure où, comme père, vous parlez à nos cœurs, n'y a-t-il pas une communication d'un secret personnel de façon communautaire ?
Oui, alors faisons attention. On parle à tout le monde et chacun le reçoit individuellement comme un secret. C'est comme ça que parle Jésus. Et dans la mesure où on parle comme instrument du Christ, c'est la même chose. Dans la prédication, c'est ce qui arrive. On parle à tout le monde et on parle à chacun en particulier. C'est ce que dit Bossuet. Le prédicateur, s'il est instrument de l'Esprit Saint, il parle à chacun en particulier. Et alors vous comprenez, il parle à chacun en particulier. Chacun le reçoit selon sa modalité. Alors il y a les deux choses à faire. Ce que vous pouvez divulguer, c'est ce qui a été dit objectivement. Dans le contexte. Dans le contexte. Autrement, vous faussez. Et ce que vous le recevez en particulier comme un secret. Qui vous lie à ce prédicateur qui, pour vous, n'est pas seulement n'importe quel prédicateur, mais il est un père. Vous voyez ? Et alors, à ce moment-là, il y a un nœud. Parce que tout secret est un nœud. Ça nous noue. C'est très important de regarder la différence entre ce que nous dit le droit canon. Nous ne vivons pas au niveau du droit canon, grâce à Dieu. Nous vivons au niveau de l'Évangile. Et Jésus n'est pas venu comme un docteur en droit canon. Il est venu comme un ami, comme un époux. Donc comme un au-delà du droit canon. Et le droit canon est au service de l'amour d'amitié. Si on l'utilise bien. Je me souviens, c'était très beau, quand il y avait, chez les Dominicains, qui s'appelait Suarez. C'était merveilleux, un Dominicain qui s'appelle Suarez. C'était un grand canoniste. Avocat à la rote. Et on savait que lorsqu'on lui demandait quelque chose, il arrivait toujours à être efficace. Un grand avocat de la rote. Quand il est venu à Fribourg faire une petite visite amicale, une visite canonique amicale, parce qu'il savait que c'est difficile à Fribourg de faire des visites canoniques, étant donné qu'on était en face de professeurs d'université et tous maîtres en théologie, donc il fallait faire attention. Il était des gants. Elle a dit toujours, je fais une visite amicale. Alors on l'a questionné sur le droit canon. Il a dit, la grandeur du droit canon, c'est de défendre les droits personnels de chaque religieux. Et donc le droit canon doit être défenseur de ce que représentent les secrets. Et quelqu'un qui divulgue un secret, le droit canon le fusille. Je trouve ça très beau, et c'est très vrai. Vous voyez, ce sont des chiens qui sont gardiens. Puisque l'Église ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de secret dans la charité fraternelle. C'est la loi de l'arcane. Oui. Et la loi de l'arcane va très loin. La loi de l'arcane, pour le chrétien, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est notre secret. C'est la parole de Dieu qui est un secret pour nous. Et c'est tous ceux qui nous transmettent la parole de Dieu. Oui, dites.
Donc, quand on confesse sa foi, quand on rencontre quelqu'un qui est incroyant, par exemple, et qu'on confesse sa foi, on a été tout imprégné de ce secret qui nous à la fois Dieu et l'Église.
Oui, et alors c'est pour ça que vous faites attention dans votre profession de foi par rapport à celui qui ne croit pas, ce qui est capable de comprendre, pas comprendre. Votre profession de foi du credo, bon, elle est la profession de foi commune. Vous n'allez pas divulguer des secrets à quelqu'un qui ne croit pas. On n'a pas le droit de donner les perles aux pourceaux. Jésus le dit, la perle c'est le secret. Symboliquement, la perle c'est le secret. Vous n'avez pas le droit de divulguer les secrets aux pourceaux. Ça va très loin, vous savez ça. Parce que cette parole, c'est la parole du Christ. Tandis que vous avez le droit de réciter votre credo. Et la manière dont vous vivez votre credo. Alors là, il peut y avoir des secrets. Votre intimité avec Dieu, dans l'adoration, touche des secrets. Puisque la nouvelle alliance est une alliance d'amour, est une alliance de secrets. Et ce sont les secrets que nous portons qui nous lient à Jésus. Tant qu'il n'y a pas d'expérience personnelle avec Jésus, avec Marie, il n'y a pas de secret. Le jour où votre foi vous donne une expérience personnelle avec Marie, avec Jésus, il y a des secrets que vous portez en vous. Et la paternité spirituelle, c'est recevoir les secrets. Et vivre des secrets. Et aider d'en vivre. Et faire le discernement entre les vrais secrets et les faux secrets.